BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons avec le directeur général de la MAIF et co-président du mouvement patronal Impact France, Pascal Demurger. Après les annonces de Bruxelles sur le Green Deal, moins de CSRD, moins de taxonomie, moins de devoirs de vigilance pour les entreprises. Est-ce que la transition climatique est en danger? Est-ce que les entreprises vont toutes faire machine arrière? Les réponses dans un instant de Pascal Demurger. Puis nous parlerons adaptation dans la deuxième partie de l'émission. Pourquoi est-ce que les entreprises ne s'y mettent pas? Qu'est-ce qui coince? Et est-ce que les entreprises sont vraiment capables de relever le défi? On verra ça avec Juliette Nouel, créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique, et Iliane Moundib, ingénieure spécialiste des questions de résilience climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à la MAIF retrouver son patron Pascal Demurger. C'est aussi le co-président du mouvement patronal Impact France. Il fait partie de ceux qui se sont battus pour sauver le Green Deal européen, mais la Commission en a décidé autrement avec sa directive Omnibus. Est-ce que les entreprises vont faire machine arrière sur le climat? Les réponses de Pascal Demurger. Bonjour Pascal Demurger.
Bonjour Thomas Asportas.
Merci de nous recevoir ici dans vos locaux à la MAIF.
Soyez les bienvenus.
Directeur général, vous êtes aussi le co-président du mouvement Impact France avec Julia Faure. Vous faites partie de ces dirigeants, de ces chefs d'entreprise qui se sont battus pour sauver le Green Deal européen. Maintenant qu'on connaît le résultat des courses, c'était il y a quelques jours, la directive Omnibus de la Commission européenne, moins de taxonomie, moins de CSRD, moins de devoirs de vigilance pour les entreprises. Est-ce que vous diriez en résumé que l'Europe, ce jour-là, a un peu lâché le climat?
L'Europe a lâché une partie du climat. L'Europe n'a pas tout lâché. Hein. C'est toujours la même chose, vers à moitié plein, vers à moitié vide. C'est vrai qu'il y a des reculs. Et il y a des reculs qui sont dommageables, à la fois sur le champ d'application de CSRD, le nombre d'entreprises qui vont être soumises. Hein. On a fixé la barre un peu haute, là, quand même, 1000 salariés. C'est quand même une taille d'entreprise déjà très significative. Sur la date d'application, pour celles des entreprises qui n'étaient pas soumises dès 25, il y a un report de 2 années supplémentaires. C'est long pour le climat, au rythme où les choses vont. Il y a évidemment l'abandon de l'objectif, à proprement parler, hein, des accords de Paris. Symboliquement, c'est quand même extrêmement fort. Le fait que, désormais, les entreprises qui sont soumises vont s'astreignent à une trajectoire, une obligation de moyens, plus une obligation de résultats. Hein, donc tout ça est important. En même temps, on peut se dire que l'essentiel a été sauvé. La double matérialité, c'est quand même complètement central. Malgré tout, la référence au 1,5 degré est maintenue. Malgré tout, voilà. Et notamment pour les grandes entreprises, les obligations
ouais.
sont
maintenues. Elles ont déjà pris le train en marche, pour le coup. Elles ont déjà lancé toutes ces choses-là.
Complètement. Elles avaient lancé déjà toutes ces choses-là. Il y a une deuxième étape à venir, hein, qui est le niveau 2, hein, de la réglementation, et en particulier quel niveau de simplification on va avoir dans le nombre d'indicateurs qui sera in fine retenu. Il faut évidemment pas trop détricoter, ça c'est clair.
Alors, mais donc en tout cas, il y a eu des reculs, c'est magnifique.
Il y a eu des reculs.
Vous êtes beaucoup allé à Bruxelles, justement, pour faire entendre vos arguments. Ouais. Qu'est-ce que vous avez senti chez vos interlocuteurs? Est-ce que vous avez senti quelque part que le vent avait tourné, que le climat n'était plus la priorité et qu'aujourd'hui, c'était l'économie et la guerre aussi, évidemment, qui est là?
Et désormais, la guerre, c'est plus récent. Hein, c'est plus récent, mais depuis déjà, effectivement, quelques semaines, peut-être quelques mois. Hein, c'est quelque chose qu'on sent monter depuis quelques temps. Le premier prétexte, ça a été sans doute le niveau de complexité de CSRD. Hein, tout le monde a été... beaucoup, en tout cas, ont été un peu... surpris peut-être hein, par ce niveau de complexité. Ah. Ça a été un prétexte pour dire « Oh là là, trop de réglementation ».
Non mais vous confirmez, c'est intéressant, vous confirmez que c'est complexe.
Je confirme que c'est complexe, oui, tout à fait.
Vous dites que c'est complexe pour la bonne cause.
Alors ça c'est clair, voilà. C'est évidemment pour la bonne cause. C'est complètement indispensable, CSRD. Enfin, revenons quand même aux fondamentaux. Hein. CSRD, ça permet quoi? Ça permet d'abord aux entreprises elles-mêmes de piloter leur transition. Moi, je ne sais pas piloter une transition si je n'ai pas des indicateurs objectifs, ouais, chiffrés, qui sont relativement clairs. Et puis, ça permet une autre chose qui est au moins aussi importante. Ça permet demain de moduler les politiques publiques, y compris la fiscalité, mais aussi les aides publiques aux entreprises, mais aussi les marchés publics, en fonction des efforts réels des entreprises. Si demain, on veut réserver les aides publiques aux entreprises les plus avancées en matière d'écologie, par exemple, il faut des indicateurs objectifs et CSRD constituent...
Qui n'existe pas sans cette CSRD.
Non,
quelque part, sans CSRD, on est un peu paumé aujourd'hui.
Ah ben complètement, complètement. CSRD est vraiment la grammaire commune qui s'imposera sur toute l'Europe, ouais, et qui objectivera avec un niveau quand même relativement élevé d'exigence sur la matérialité des données, ouais, que l'on fournit, qui permettra effectivement cette comparaison.
Et pourtant, Pascal Demurger, vous le savez mieux que moi, tout le monde... Vous voulez la peau de la CSRD.
Oui.
Le MEDEF, enfin, je ne vais pas faire toute la liste, la FEP, les gouvernements aussi, les politiques, le gouvernement français, le gouvernement allemand, ça veut dire que tous ces gens-là, qui sont censés être responsables quand même, se trompent.
Alors, il faut, reprenons les différentes catégories. Vous avez des organisations patronales traditionnelles qui ont un discours traditionnel. Moins de réglementation, moins de taxes, moins de charges, et qui restent parfois un petit peu bloqué, malgré tout, sur ce niveau de discours. Je pense qu'il faut savoir aussi voir dans CSRD à la fois la nécessité de la transition, mais aussi la nécessité pour l'économie européenne de se différencier par rapport aux autres économies et fixer ses propres normes et évidemment les imposer aussi aux importations vers l'Europe. S'agissant des gouvernements, le gouvernement allemand, c'est un tout petit peu moins surprenant. Il a été toujours en retrait sur CSRD. Ah. L'Allemagne, on le sait, n'avait pas retranscrit la directive dans son droit national. Mm-hmm. La surprise a plutôt été la position du gouvernement français.
Ouais.
Très en retrait par rapport à sa position traditionnelle. Et alors même que la France a toujours été un peu en pointe en Europe sur ce sujet-là.
Ouais, et porté qui plus est par un commissaire français à la Commission européenne,
c'est Stéphane Séjourné. Absolument, absolument.
C'est un peu le coup de grâce quelque part.
Alors à la fois le coup de grâce et peut-être le sauvetage aussi. Il fallait sûrement lâcher du lest pour sauver l'essentiel.
Ouais.
C'est toujours difficile dans ces situations de savoir si effectivement il a donné le coup de grâce ou au contraire s'il a sauvé l'essentiel.
Et la manière dont les choses ont été présentées, la Commission dit on ne renonce à rien, à pas un millimètre de nos ambitions climatiques. Mais
ce qui n'est pas faux.
Et en même temps, ils disent, on va simplifier la vie des entreprises avec moins de paperasse. Ça, c'est du vent, pardonnez-moi l'expression.
Alors, c'est à la fois relativement réel dans la mesure où le 90% d'émissions en moins en 2040, cet objectif est toujours maintenu. Vous avez un certain nombre d'objectifs qui sont maintenus, les objectifs de fond. En revanche, le paradoxe, c'est qu'effectivement, on renonce sur les moyens dont on se dote pour parvenir à ces objectifs. S'il y a des choses complémentaires intéressantes, le nouveau pacte pour une industrie propre...
Ouais, qui a été présenté en même temps.
Qui a été présenté en même temps, propose des choses intéressantes, pour le coup. Alors qu'ils vont complètement, et je ne sais pas s'il y a eu une influence réelle d'Impact France ou pas, mais en tout cas, qui vont totalement dans le sens de ce que nous proposons depuis des années. La modulation des aides publiques aux entreprises en fonction, effectivement, de leur état d'avancement sur la transition écologique. L'intégration de critères écologiques beaucoup plus importants dans les appels d'offres. La préférence européenne. Est-ce qu'on entre dans un monde dans lequel la souveraineté économique devient un sujet extrêmement important et n'est plus un gros mot et alors évidemment ça s'est accéléré depuis quelques jours ou quelques semaines avec l'élection de Donald Trump, mais c'était déjà le cas précédemment. Tout ça va dans le bon sens.
Alors, il n'y a pas que cette CSRD, il n'y a pas que la loi Omnibus dans la vie, il y a aussi le contexte général dans lequel évoluent les entreprises. Vous l'avez dit, l'Europe, moins de croissance en Europe, moins de croissance en France, des tensions géopolitiques maximales. Vous, les entreprises, à la fois que vous accompagnez avec la Maïf et aussi au sein d'Impact France, quelles sont vos remontées de terrain? Est-ce que vous sentez que tout le monde, là, se met sur pause sur le climat, voire fait machine arrière?
Non, c'est pas aussi violent que ça, loin de là.
Cette petite musique de backlash climatique, elle est permanente.
Oui.
Est-ce que c'est la réalité de terrain aussi?
C'est pas la réalité de terrain en France, en tout cas pas de manière aussi généralisée et aussi violente. C'est sûrement une réalité un peu plus importante aux États-Unis. Ça peut être une réalité pour quelques grandes entreprises françaises qui sont très concernées par le marché américain, très engagées sur le marché américain, et qui effectivement, sur le sujet de l'écologie, encore plus sur le sujet diversité et inclusion, sont obligées d'avancer à bas bruit, de manière feutrée et sans être trop visible, parce qu'il y a un vrai risque pour leur business, tout simplement. Et c'est audible aussi, c'est compréhensible. En revanche, moi j'ai vraiment le sentiment que chez la majorité des dirigeants d'entreprises en France, le sujet écologique, la préoccupation écologique est bien intégrée et que tout le monde a parfaitement compris que de toute façon, il n'y aurait plus de business dans un monde en chaos et que oui, il va bien falloir la transition.
Ouais, ce sera ma toute dernière question. On arrête déjà au terme de cet entretien. Mais donc cette année, comment est-ce que vous la voyez d'un point de vue climatique, chez les dirigeants? Enfin, vous le dites, ils ont compris, mais est-ce qu'ils vont agir? Qu'est-ce qui va se passer cette année?
Moi, je pense qu'ils vont continuer à agir. Alors, peut-être qu'il faut faire un petit peu le dos rond. Peut-être qu'il y aura un petit ralentissement dans les plans de transition. Mais je ne crois pas que ce sera majeur. Je pense qu'on va continuer dans la même voie. Et pour demain, préparer une réaccélération. Vous savez, il y a une dimension cyclique aussi ces sujets-là.
Merci beaucoup, Pascal Demurger, de nous avoir reçus ici dans vos locaux.
Merci à vous.
Retour en plateau et on va parler d'adaptation à présent, un mot qu'on entend de plus en plus mais qui visiblement n'est pas compris par les entreprises et on va donc tâcher aujourd'hui de vous être utile avec deux des meilleurs experts de la question. Bonjour Juliette Noël.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et avec vous, Iliane Mondi, bonjour.
Bonjour Thomas Sapardes.
Merci d'être là. Vous êtes ingénieur spécialiste des questions de résilience climatique et auteur de Fake or Not. S'adapter au changement climatique, c'est aux éditions Tana. Juliette Noël, je commence avec vous. On l'a dit, les entreprises n'y vont pas, ne s'y mettent pas, ne s'adaptent pas. Pourquoi alors qu'on est en train de parler de leur survie, ni plus ni moins?
D'abord parce qu'elles n'ont pas du tout conscience qu'on parle de leur survie et que le premier déclencheur pour passer à l'action jusqu'à maintenant, c'est d'avoir déjà subi les impacts du changement climatique. Donc la plupart, la grande majorité des entreprises attendent d'avoir été elles-mêmes affectées. Donc on a quelques exemples récents. On a vu Porsche qui a perdu 2 milliards de chiffre d'affaires parce qu'un de ses... Un de ses fournisseurs avait été inondé. Ouais. On a aussi Carrefour qui a été le Carrefour du Givor qui a été complètement inondé, pareil, avec en plus des clients et des salariés enfermés. On a un groupe qui s'appelle Cordon. Je pourrais en citer vraiment des centaines, ouais. Mais bon, voilà, qui s'était installé dans le Pas-de-Calais, Cordon Group, et qui a été inondé deux fois de suite, à peine quelques semaines après son inondation. D'accord. Donc là, on peut imaginer que toutes ces entreprises vont réfléchir à comment s'adapter aux impacts physiques du changement climatique.
Okay.
Voilà. Deuxième.
C'est ça le déclencheur, il faut être brûlé, quoi.
Voilà.
Faut être un gros brûlé.
Ou inondé.
Oui. Non, mais voilà. C'est la formule. Okay.
Deuxième frein, c'est quand même qu'il y a une confusion générale entre atténuation et adaptation.
Ouais.
Et que pour la plupart des entreprises.
Déjà, atténuation, c'est décarbonation. C'est
alors,
souvent le mot.
Atténuation,
voilà.
C'est décarbonation.
Limiter
atténuation,
les émissions.
C'est s'attaquer aux causes du changement climatique. Ouais. C'est donc lutter contre le changement climatique.
Ouais.
Et l'adaptation, c'est essayer de réduire les conséquences du changement climatique.
Ouais.
Et c'est faire avec.
C'est ça, ouais, vivre
mais
avec.
Il faut absolument faire les deux en même temps,
ouais.
Puisqu'on ne pourra pas juste dire on va s'adapter et tout va bien se passer.
Ouais.
Non. Après, on a comme frein les biais cognitifs habituels. Le court-termiste, c'est-à-dire des entreprises qui s'attaquent qu'aux problèmes immédiats et les traitent en silo.
Mmh.
Ensuite, il y a un biais d'actualisation mentale, on peut dire, c'est-à-dire qu'elles surévaluent les investissements qu'il faudrait faire tout de suite et sous-évaluent les bénéfices qu'elles auront
d'accord.
dans le futur. Donc elles n'arrivent pas, elles hésitent et elles n'y vont pas.
Okay.
Donc ça c'est un très gros problème en termes d'adaptation au changement climatique. Et enfin je dirais qu'il y a un problème de vision réglementaire, c'est-à-dire que, bon, hélas, On a des petits problèmes aujourd'hui avec la CSRD, mais on va en reparler.
Ouais.
Mais la vision réglementaire, ben justement, elles s'en tiennent là, elles remplissent des tableaux Excel, et elles ne voient pas que derrière, ben, il y a une vraie réalité physique, parce que c'est ça dont on parle.
Ah, bien sûr.
Et voilà, donc on a tous ces problèmes.
Ilyan Moundib, votre vision à vous, vous êtes d'accord avec ça? C'est parce que les entreprises, enfin les entreprises n'ont vraiment pas du tout conscience en fait de ce dont on parle.
Effectivement, il y a une première question qui est un défaut de formation. Le massacre à la tronçonneuse qui vient d'avoir lieu sur la CSRD, en fait, il a une qualité, c'est qu'il montre qu'en fait, énormément de nos dirigeants politiques, mais aussi de nos dirigeants économiques, n'ont pas compris la matérialité de l'effondrement en cours, qui est un effondrement lié à une polycrise écologique et pas uniquement au changement climatique. En résumé, en fait, aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises ou les politiques ont une vision plus de la question climatique comme une question de reporting, une question réputationnelle, réglementaire. C'est en fait, on accumule les diagnostics médicaux sans jamais commencer le traitement. C'est un peu ça la réalité. Mmh. Et en fait, on a du mal à se placer dans des scénarios prospectifs et des scénarios prospectifs de rupture en particulier. Quand on fait une analyse de risque climatique, on ne fait pas du calcul d'empreinte carbone. On va beaucoup plus sur l'évolution, la projection de mon modèle d'affaires, la projection de mon entreprise, la projection de mon territoire dans un monde sous dérive climatique. Et je rappelle que cette dérive, elle est irréversible. Et donc, la méthode qu'on utilise en général, c'est cette méthode, c'est ce cadran-là. C'est-à-dire qu'on va analyser un certain nombre d'aléas climatiques, les vagues de chaleur, les inondations, en fait, les rhinocéros gris de la France 4 degrés, le trop chaud, le trop sec et le trop d'eau. Et on va en fait regarder l'exposition de mon modèle d'affaires ou de mon territoire à ces différents aléas climatiques, mais on ne va pas analyser que ça. On va aussi analyser la vulnérabilité, c'est-à-dire à quel point mes caractéristiques d'organisation vont augmenter ou diminuer le risque et à quel point la réponse que je vais faire par rapport à ces enjeux, à ces aléas, va limiter ou pas le risque. C'est donc, en fait, le risque un cadran de quatre choses.
Oui, c'est une rosace.
Exactement, avec des éléments purement climatiques et des éléments purement sociaux et organisationnels.
Alors, maintenant qu'on a planté le décor très concrètement, si ça a fait tilt chez les dirigeants qui nous regardent, parce qu'on est quand même là pour ça, pour faire de la pédagogie sur l'adaptation, très concrètement, un chef d'entreprise qui va adapter son entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire, Juliette Noël? Le plus concrètement possible, ça passe par quoi, adaptation?
Alors moi, je vais d'abord répondre à comment faire pour qu'il s'y intéresse.
Ouais,
et
pour que ça fasse tilt.
Et là, c'est le coup classique de la carotte et du bâton. On va commencer par le bâton. Leur rappeler, s'ils l'ont pas déjà vu, que quand même l'Institut des actuaires et l'Institut de la faculté des actuaires vient de sortir un rapport qui dit que, considérer qu'il y aurait simplement moins 15% de PIB en 2050, c'est optimiste. Et les acteurs,
c'est déjà considérable.
Voilà. Et les actuaires disent, c'est un peu comme si on modélisait le choc entre le Titanic et un iceberg, en oubliant que le Titanic peut couler, en oubliant que les gens, qu'il n'y aura pas assez de canots de sauvetage et que les gens peuvent mourir d'hypothermie. L'hypothermie.
Parce qu'il fait trop froid.
Voilà, parce qu'il fait trop froid. Et donc les actuaires disent, en fait, on peut aller vers une chute du PIB de 50 à 90%.
À horizon 2100.
Voilà, à horizon 2100.
Okay. Donc, un effondrement de l'économie. Quoi.
Voilà. Ouais. Autre bâton, c'est France Assureur, qui dans sa cartographie des risques 2025 dit, attention, non seulement le dérèglement climatique est le premier risque pour la première fois, mais
avec
en plus...
les cyberattaques,
mais en plus, en 14e position, qu'est-ce qu'on voit assurer? Le risque le risque d'inassurabilité. Hein. Et ça, c'est un problème pour les assureurs, mais aussi évidemment pour les entreprises.
Bien sûr.
Après, le bâton, le grand classique, c'est de dire, et tout le prouve, que l'action, aujourd'hui, coûtera moins cher que l'inaction.
Ouais.
Donc, il y a le World Economic Forum qui a fait qui a sorti un rapport tout récent, en décembre, et qui dit, si on investit aujourd'hui environ 3% du PIB dans l'atténuation et l'adaptation, mais aussi l'atténuation, on pourrait éviter jusqu'à 5 ou 6 fois, même 7 fois, de perte de PIB en 2100 dans un scénario de plus 2 degrés. Et l'autre carotte, si je puis dire, c'est que évidemment il va y avoir des opportunités formidables pour les entreprises dans l'adaptation. Je vais citer que deux exemples. Il va falloir s'intéresser à l'isolation thermique des bâtiments pour l'habitabilité d'été. Mmh. Donc là, il y a des opportunités. Si vous êtes spécialiste de la végétalisation des villes, dans les travaux publics ou autres, là aussi, il y a d'énormes opportunités.
Des marchés qui s'ouvrent.
Voilà, il y a des marchés qui s'ouvrent.
Ouais. Ilyan Moundib, on a bien compris effectivement dans les carottes et les bâtons, c'est on ne peut plus clair. Là aussi, on vous pose la question très concrètement. Une entreprise qui veut se mettre à s'adapter, on voit bien beaucoup d'entreprises, ça y est, elles ont pris le train en marche de la décarbonation. Si elles veulent monter dans le train de l'adaptation, qu'est-ce qu'elles doivent faire?
Oui. Alors déjà, je pense qu'il y a un biais à surmonter. C'est celui de penser que rien n'est fait pour l'adaptation. Il y a des choses en cours, mais la maladaptation qu'on a majoritairement aujourd'hui, c'est une maladaptation systémique. C'est l'adaptation des mégabassines, c'est l'adaptation des canons à neige, ou c'est l'adaptation qui transforme progressivement nos forêts en champs d'arbres. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une pénurie. Et que vu qu'on n'a pas de planification réelle, en tout cas avec des objectifs concrets et financés correctement, on se retrouve avec les plus grands acteurs qui sont touchés directement par les conséquences de changement climatique, qui ont la possibilité de s'adapter eux-mêmes en accaparant une partie de la ressource qui est abondante. Un exemple, par exemple, c'est celui effectivement de la ressource en eau avec les céréaliers, qui fait qu'avant on avait une ressource abondante et que maintenant, enfin avec par exemple la question des mégabassines, il y a eu des investissements qui ont été consentis pour pouvoir accaparer une partie de cette eau et protéger le business as usual. En fait, on est sur une forme de dilemme du prisonnier géant. Et ce dilemme du prisonnier géant, on peut pas en sortir si on n'a pas une planification par le haut et donc en fait une véritable réalité d'un état stratège qui orienterait vers les grands chantiers de l'adaptation. Je donne un autre exemple, c'est celui de nos forêts par exemple, sur cette question de la maladaptation systémique. Deux petits éléments sur ce graphique. Le premier, c'est ici vous voyez l'augmentation de la mortalité forestière entre 2023 et 2013. Nos forêts, elles ont perdu ou elles séquestraient dans la décennie précédente environ 60 mégatonnes de carbone par an. Aujourd'hui, c'est 40. Et si on prend uniquement l'année 2023, on était à 30. Donc, une division de 50% de nos puits de carbone. Le problème, c'est que si je regarde maintenant la stratégie nationale bas carbone, c'est notre stratégie de décarbonation, il était prévu, planifié qu'entre 2015 et 2050, on ait un triplement de la quantité de bois pour la décarbonation de nos bâtiments. Et ça, justement, c'est un problème de maladaptation. Parce que si on veut tripler la quantité de bois, il va falloir rendre nos forêts beaucoup plus homogènes génétiquement. Il va falloir faire un modèle hyper productif, hyper intensif. Et ça, c'est un des paradigmes sur lesquels il faut sortir sur la question de l'adaptation. C'est d'aller toujours vers la question de l'efficacité et de la productivité pour aller plus vers le paradigme de la robustesse. Et ce paradigme de la robustesse, on peut le voir, par exemple, avec le projet de l'ONEF, qui est pour une autre forêt, une forêt qu'on appelle mosaïque, c'est-à-dire une forêt où on aurait des îlots de vieillissement, des îlots liés au bois, des zones en libre évolution, des zones où on pourrait tester de nouvelles essences. Et ça, c'est une métaphore de ce que doivent faire les entreprises. Elles doivent sortir du paradigme de l'efficacité pour aller, et de la performance, pour aller vers un paradigme de la robustesse, c'est-à-dire être stable, rester stable et se transformer dans un monde qui devient fluctuant. C'est le concept du biologiste Olivier Hamant.
Très intéressant. Alors, il nous reste déjà plus que 3 minutes. J'avais une dernière question à vous poser. Ce dont vous nous parlez là, l'adaptation, on a bien compris quel était le sujet, mais on voit bien que le défi est absolument systémique et vertigineux.
Exactement.
Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est vertigineux. Est-ce que les entreprises sont capables de faire ce dont vous parlez?
Alors moi, je dirais qu'elles sont capables parce que déjà, elles le font. Hein. Elles sont obligées, face au mur, de mettre en œuvre quelques mesures d'adaptation qui sont des petites mesures d'adaptation à la marge. Par exemple, si on crée une inondation, on va mettre quelques sacs de sable.
Hein.
Donc ça, elles le font, ou alors elles décalent les horaires de travail quand il fait vraiment trop chaud. Voilà. L'adaptation systémique, on commence à y passer. Donc c'est moins ponctuel, moins temporaire, mais toujours dans le même exemple, on va rehausser une digue pour éviter que la mer monte sur notre installation. Mais l'adaptation transformationnelle, pour l'instant, elles en sont capables, mais elles ne le font pas du tout. On n'y est pas. Or, l'adaptation, elle n'est que transformationnelle. Dans un climat qui change, on ne peut pas se contenter de faire que des petits ajustements à la marge. Sinon, on retombe dans ce que disait Ilyan, une autre forme de maladaptation.
Oui, parce qu'on
va, voilà, on va s'épuiser à répéter des mesures qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et je voudrais vraiment dire que anticiper. Et le MEDEF l'a bien compris, puisqu'il a fait un petit guide sur l'adaptation. C'est minimiser les coûts, c'est lisser les investissements, on va pas tout dépenser d'un coup, et puis c'est transversal, et ça permet d'aller chercher les opportunités. Donc vraiment, l'adaptation, elle est transformationnelle, les entreprises en sont capables, mais il faut qu'elles s'y mettent au plus vite, parce que ça se décide pas au dernier moment.
Absolument, et plus on attend, plus c'est compliqué de s'adapter. Ilyan Moundib, le mot de la fin pour vous, vous y croyez? Vous pensez vraiment que les entreprises sont capables? Juliette le dit, elles n'ont pas le choix, mais est-ce que le défi est tel
Est-ce qu'elles peuvent le faire ?
Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de cet entretien, pas non plus en ayant une vision uniquement d'une adaptation qui serait un enjeu d'un certain nombre de mesures qui viendraient s'ajouter au système. En fait, on ne peut pas s'adapter dans le statu quo. Pourquoi ? Et ça, c'est une grande leçon de l'anthropologie, parce qu'en fait, le darwinisme social, enfin, le darwinisme est mal interprété aujourd'hui dans notre société. Ce n'est pas les êtres vivants ou les individus les plus compétitifs qui s'en sortent. Hein ? C'est le cas dans un environnement où on a une forme d'abondance énergétique et matérielle, sauf que quand cette abondance énergétique et matérielle nous quitte, on se retrouve dans une situation où ce sont les comportements d'entraide qui deviennent le facteur de survie pour le vivant et pour l'espèce. Ça, c'est la grande leçon du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » qui décrit ce cycle pénurie-abondance. Et donc, l'objectif, c'est de trouver ensemble qu'on organise et qu'on retrouve nos déjà-là de l'entraide, nos déjà-là de l'eurobus, pour qu'on les généralise par rapport à la généralisation de la compétition partout dans nos vies et dans le monde économique.
Ce sera le mot de la fin, un changement complet de modèle. Et on espère que cette année 2025 permettra aux entreprises d'avancer là-dessus sur l'adaptation, parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas le choix. Merci infiniment Juliette Noël, créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique, et Eliane Moundib, ingénieure spécialiste des questions de résilience climatique et auteure aux éditions Tana de Fake or Not, s'adapter au changement climatique. C'est déjà la fin de BFM Climat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur bfmbusiness.com, sur notre appli, sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.